Nous passons maintenant à notre séance de questions-réponses. Merci d'étendre vos téléphones et de vous présenter avant de poser vos questions. Je vous rappelle de nouveau qu'on a ici avec nous le porte-parole de la CPI, Paul Madidi, pour répondre à vos questions sur la reddition de Bosco Ntaganda. On passe maintenant aux questions. On commence par la droite. On va ici. À droite. Oui. Je crois qu'on a un problème avec le... Est-ce qu'on a...
Merci. Moi, okay. C'est Flavien Moussens pour les comptes de Planète Télévision. Ma préoccupation, je l'adresse au porte-parole de CPI. De la CPI, merci. Monsieur le porte-parole, le général Bosco Ntaganda, il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali pour son transfert à la haie. Quelque part, le Conseil de sécurité avait interdit au général de voyager. Quel sera le procédé? Est-ce que la CPI doit d'abord annuler ces interdictions auprès du Conseil de sécurité ou comment est-ce que c'est la CPI qui doit envoyer une vol spéciale pour Bosco Ntaganda? Merci.
Merci pour la question. En fait, la Cour pénale internationale, pour l'instant, prend des dispositions, tous les contacts nécessaires pour rendre possible donc le transfert de Bosco Ntaganda. C'est non seulement des contacts avec des pays concernés, mais également au niveau des instances onusiennes.
On passe maintenant à la prochaine, là, droite.
Merci, c'est Rigobert Kabongo de l'agence Univers Info. Ma question, je la pose à M. Paul Madidi. Les États-Unis et le Rwanda sont deux pays non signataires du traité de Rome. Alors, que fera la CPI demander l'extradition à ces deux pays ou il y aura une autre résolution qui sera trouvée?
D'abord, il n'est pas dit que parce qu'un pays n'a pas ratifié le statut de Rome, qu'il ne peut pas volontairement coopérer avec la Cour pénale internationale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des contacts utiles sont pris, sont en train d'être discutés, sont en train d'être pris pour que ce transfert se déroule le plus tôt possible. Aussi bien avec des États, tous les États concernés impliqués dans cette affaire Bosco Ntaganda. Voilà.
Et si je peux ajouter quelque chose, il faut rappeler aussi que les États-Unis ont dit qu'ils allaient transférer Bosco à la haie. Donc ça, ce sont les agences de presse. On continue à droite avant d'aller à la gauche.
Là. Oui, merci. C'est Vena vous dit ça, toujours... au sujet de la reddition de Bosco Ntaganda, c'est vrai, les États-Unis ne font pas partie, ne sont pas partie signataire du statut de Rome créant la CPI, ni le Rwanda. Mais, M. Paul, comme mon colonel, tous deux peuvent me répondre, quelles sont les raisons qui ont motivé cette reddition, surtout se rendre de lui-même à l'ambassade, et puis, est-ce qu'il n'y a pas vraiment... quelque chose là, un flou qui plane tout autour, à vous. Mon colonel, je profite de l'occasion, les éléments, les ex, disons, M23, sans Bosco Ntaganda, ils sont en errance, c'est vrai, et la communauté internationale a l'habitude de proposer ou de conseiller l'intégration des ex-rebelles, notamment les RCD, les ex-CNDP. Cette fois-ci, vous allez conseiller la RDC, disons, au gouvernement congolais, à ce qu'on intègre les ex-M23, à vous.
Pourquoi Bosco Ntaganda se rend aujourd'hui? Vraiment, je suis pas son porte-parole. Je ne sais pas pourquoi. Je connais même pas les conditions dans lesquelles cette reddition s'est déroulée. Je constate juste qu'il est possible aujourd'hui que M. Bosco Ntaganda, à l'endroit duquel quand même il y a deux mandats d'arrêt, si cette reddition se fait dans le plus bref délai, Cela n'est peut-être qu'une très bonne chose pour la justice et pour les victimes de l'Ituri.
Oui, merci pour votre question. D'abord, je voudrais juste souligner ou affirmer ici la souveraineté du gouvernement congolais relativement à justement les dispositions qu'il faudra prendre concernant tous les ex-éléments Bosco Ntaganda du M23, parce que je ne partage pas avec vous l'idée selon laquelle c'est la communauté internationale qui impose au gouvernement congolais les mesures ou en tout cas les mécanismes à mettre en œuvre pour éventuellement trouver des solutions aux problèmes récurrents de l'Est. Donc je pense qu'au point où nous en sommes, les éléments de Bosco Ntaganda sont en débandade, ont traversé la frontière au niveau de Kasisi, ont été interceptés par les forces de défense rwandaises le long justement de cette frange frontalière, et présentement nous attendons de voir quelle sera la suite à donner aux événements. Mais toujours est-il qu'au niveau de la MONUSCO, nous suivons de très près cette situation-là qui, comme vous le savez, a eu des impacts très négatifs sur les populations civiles dont nous sommes responsables, en ce sens que notre mandat nous permet de les protéger.
Il y a une autre question là, avant qu'on passe à la gauche.
Merci, c'est Steve Wembi pour l'agence Chine Nouvelle. Je veux deux petites questions. La première, vous pouvez la partager avec M. Paul Madidi. Les Nations Unies ont suspendu Bosco Ntaganda des voyagers. Alors je me pose la question, comment il a quitté le Nord Kivu, prendre une jeep, Gisenyi, jusqu'à Kigali, et s'est présenté devant à l'ambassade des États-Unis. Par quel miracle il s'est retrouvé là? Qui a favorisé son transport? Si vous pouvez éclaircir cette zone. Et la deuxième question, c'est au colonel Basque. Pendant les affrontements entre les deux factions du M23, quelques soldats et hauts responsables du M23 faction Runiga se sont réfugiés à la MONUSCO. Est-ce que nous pouvons savoir, ils sont combien et qu'est-ce que la MONUSCO va faire de ces soldats? La MONUSCO va-t-elle le remettre au M23 des Runiga ou bien le remettre au FRDC? Merci.
Encore une fois, franchement, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à votre question, comment il s'est rendu là-bas, pourquoi, etc. Le colonel porte-parole militaire vous a dit que tout cela s'est fait après des combats violents entre les différentes factions. Il faut comprendre que... Mais vraiment, je suis très mal placé, je ne suis pas son porte-parole. Je ne sais pas comment et pourquoi.
Moi, je crois que maintenant, la chose la plus importante, c'est de
dire
qu'il va être transféré à la Haye, qu'il va enfin être traduit en justice sur les circonstances. Il y a eu des combats internes entre les factions des M23. Comme vous savez, il y a 600-700 combattants qui ont fui. Vous avez beaucoup d'informations, il est escapé en jeep, on n'a pas ces informations. Donc je laisse maintenant la deuxième partie de la question au colonel Bad.
Merci pour votre question. Je pense que la semaine dernière, nous avions ici évoqué aussi le cas de certaines redditions auprès de nos bases opérationnelles. Pour cette fois-ci, vous avez tantôt parlé de hauts cadres militaires qui auraient trouvé refuge auprès de nos bases opérationnelles. Ceci n'est pas tout à fait exact. Effectivement, nous avons eu à accueillir un chef militaire du M23, qui était l'officier de renseignement du M23, qui est le colonel Douglas. Mais vous connaissez la procédure dans ce cas bien précis, qui consiste à remettre ces gens-là au niveau du DDR, qui se chargera ensuite des modalités pratiques concernant éventuellement leur destination. Mais au niveau de la force de la MONUSCO, nous avons effectivement, comme auparavant, accueilli certains qui étaient en débandade et qui ont été transférés selon les modalités que je viens d'annoncer.
On va ici à gauche maintenant. On commence ici à gauche. Oui, merci.
Pierre Emaille de l'agence congolaise de presse. Je vais poser une question au colonel Bass. Il y a eu des combats, je pense, au niveau de Kibumba entre les deux factions. Je pense que les Nations Unies ou les casques bleus qui sont à 7 km de Kibumba, parce que les casques bleus sont sur les collines Munigi, c'est à 7 km de Kibumba. Et quand vous êtes sur les collines de Kibumba, vous pouvez regarder jusque dans les frontières du Rwanda. Donc, je suppose que le contingent, je crois, pakistanais, qui est sur les collines de Muningi, doit avoir remarqué la traversée d'au moins 700 personnes. Est-ce que les casques bleus étaient au courant que les 700 personnes traversent la frontière? Ensuite, je voudrais constater quelque chose au sujet de Bosco Ntaganda. L'ambassade des États-Unis au Rwanda, à Kigali, se situe dans le même périmètre que toutes les ambassades de France et des autres. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut quitter à pied, quelque part, arriver jusqu'à l'ambassade des États-Unis sans qu'il soit aperçu par les corps de sécurité? Est-ce que la CPI, qu'est-ce que la CPI prévoit en cas de révélation de Bosco Ntaganda contre le gouvernement congolais?
Merci pour votre question. Je voudrais tout simplement corriger que Muningi, que Kibumba est à peu près à une quarantaine de kilomètres de Goma et Muningi est à peu près à 4 ou 5 kilomètres de Goma. Donc les deux distances sont très éloignées. Ça, c'est un premier fait à corriger. Le deuxième fait, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, nous avons occupé les collines de Muningi Est et de Muningi Ouest suite au retrait du M23 dans sa composition initiale. Suite à ce retrait-là, nous avons occupé ces deux mouvements de terrain et nous avons aussi occupé Monja et Rusayo qui sont un peu plus au sud de Muningi Ouest et de Muningi Est, justement pour prévenir toute forme d'incursion du M23 en direction de Goma. Donc, maintenant, comment est-ce que ces gens-là se sont retrouvés vers la frontière ougandaise? Mais je viens de vous relater ou de vous décrire le scénario des combats qui ont eu lieu. Et ces combats ont été d'une violence inouïe parce que en moins de 24 heures, entre des combats qui ont démarré le 14 à 6 heures du matin, et à 19 heures, tout était terminé, et les éléments de Bosco étaient en débandade vers Gasizi, le long de la frontière avec le Rwanda. Donc, permettez-moi aussi de vous dire que vous avez été à Kibumba, vous avez été à Kibati. Vous connaissez la configuration du terrain. Ce n'est pas parce qu'on est au-dessus d'un mouvement de terrain qu'on voit tout. Vous savez que cette zone est truffée de mouvements de terrain qui ne permettent pas de voir à très très loin. Donc, considérant cet état de fait, ces combats d'une violence inouïe qui ont été conduits à coups de lance-roquettes multiples et de coups de mortier, effectivement, ont mis en débandade ces troupes-là, et compte tenu évidemment des raisons avancées par Baudouin Garoué, ils étaient en rupture de munitions, donc n'ayant plus de quoi se battre, ils ont préféré partir dans tous les sens. Donc c'est ce qu'on peut vous dire, parce que la MONUSCO n'est pas responsable de la surveillance frontalière. Je pense qu'il y a des forces de défense et de sécurité de ce pays qui en ont la responsabilité. Nous continuons à mener notre travail qui est celui de protéger les populations civiles et de monitorer la situation sécuritaire dans cette partie.
Il y avait une première partie, je crois, sur les circonstances. Je ne sais pas si Paul, tu veux...
Encore une fois, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il est possible que M. Bosco Ntaganda, à l'endroit duquel il y a quand même deux mandats d'arrêt, pourrait être rendu à la Cour pénale internationale. Si cela est fait, nous l'espérons dans le plus bref délai, il y aura un procès équitable, transparent. Maintenant, vous demandez qu'est-ce que la Cour fera s'il fait des déclarations. Ce sera dans le cadre du procès, tout à fait transparent, au juge de prendre, de donner des orientations et au procureur, s'il est nécessaire, de prendre des dispositions nécessaires pour cela. C'est peut-être il faut justement peut-être qu'il se tienne ce procès là.
On continue ici à gauche.
Merci. Je me nomme Benoît Kambere Lusumba. Je suis du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs
Et tout naturellement, je m'adresse à M. Paul Madidi. S'il advenait, M. Paul Madidi, que le général Bosco Ntaganda ne soit pas extradé, on a vu que pendant une dizaine d'années, le gouvernement congolais a refusé de vous le livrer, et que s'il advenait que les États-Unis ne le fassent pas, l'ambassade des États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous taire comme vous avez fait pendant 8 ans que le gouvernement congolais refusait de livrer le général Paul Ntaganda. Bosco Ntaganda.
Bosco Ntaganda.
C'est un lapsus qui dit ce qu'il veut.
D'abord, nous espérons, nous continuons à espérer, c'est pour cela que des contacts utiles sont pris pratiquement à tous les niveaux pour que ce transfert soit possible. Contrairement à ce que vous affirmez, nous ne sommes pas tus, au contraire. Nous avons, pendant toutes ces années où, selon le jargon utilisé dans ce cas de figure, c'est-à-dire quand Bosco Ntaganda était en fuite, nous avons continué à demander d'abord l'arrestation de M. Bosco Ntaganda auprès des autorités congolaises, et puis le transfert de M. Bosco Ntaganda à la Cour. Nous ne nous sommes jamais, bien au contraire, nous ne nous sommes jamais tus. Nous avons toujours insisté pour que M. Bosco Ntaganda soit d'abord arrêté et puis qu'il soit livré à la Cour. Si les États-Unis ne se livrent, enfin ne le font pas, d'abord je ne voudrais pas aller dans les si. Nous espérons que cela va se faire. Nous pensons quand même que, vraiment sans parler au nom du gouvernement américain, qui a dénoncé à plusieurs reprises ce qui se passait à l'Est, avec l'implication de M. Bosco Ntaganda, nous espérons que ce transfert va se faire. Je ne voudrais pas aller dans les si, dans les hypothèses négatives. Nous espérons, et j'ai entendu que le gouvernement américain est plutôt favorable à ce transfert. D'ailleurs, c'est à la demande même, paraît-il, de Bosco Ntaganda lui-même. Attendons voir. N'allons pas dans les si négatifs.
Une dernière question ici à gauche avant d'aller à droite.
Oui, Bruno Minas, RFI. À propos de la nomination de l'envoyé spécial pour les Grands Lacs, je voulais savoir si vous avez déjà des informations sur son cahier des charges, son emploi du temps, quand est-ce qu'elle va venir, qu'est-ce qu'elle va faire.
Elle a un communiqué qu'elle a dit qu'elle voudrait le plus tôt possible, mais il n'y a pas une date. Ce que je peux vous dire, qu'il y a des informations qu'elle restera basée en Irlande, mais avec un bureau aussi à Bujumbura. Mais au niveau de son premier déplacement ici à la région, on n'a pas encore des dates. Merci. On va ici à droite maintenant, la dernière.
Oui, c'est M. Alain Waikani pour la RTNC. Je pose la question à M. Paul Madidi. Prenons que Bosco Ntaganda soit transféré à la haie, parce que vous ne voulez pas qu'on parle de ce qui se passe au Rwanda. Quelle sera la différence entre le procès de Bosco Ntaganda et le procès qu'on a eu avec Thomas Lubanga? Et quelle sera aussi la différence entre les témoins qu'on a utilisés dans le procès Thomas Lubanga et Bosco Ntaganda, parce qu'on sait que Thomas Lubanga, c'est le fruit de Bosco Ntaganda. Et maintenant, quelle sera la différence, alors qu'on sait très bien les difficultés que le bureau du procureur a eues avec le procès de M. Thomas Lubanga, où plus de quarantaine de témoins ont été systématiquement déclassés par les avocats de Thomas Lubanga. Est-ce que les mêmes erreurs ne seront pas répétées dans l'affaire Bosco Ntaganda? Surtout la différence qu'on va avoir dans ce procès. Merci.
Bon, d'abord, la différence, c'est qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes. Bosco Ntaganda et Bosco Ntaganda. Peut-être vous ne le savez pas, mais on a ajouté de nouvelles charges à Bosco Ntaganda, notamment des violences sexuelles, esclavage sexuel, et puis je crois aussi des pillages et meurtres, etc., qui sont à prendre dans le cadre des crimes contre l'humanité. Donc vous voyez très bien que c'est quand même différent. Mais Thomas Lubanga, lui, était poursuivi et condamné exclusivement pour enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, en tant que crime de guerre. Là, on a ajouté de nouvelles charges, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est déjà différent. Quant aux témoins, je ne peux pas m'avancer là-dessus parce qu'il est possible que ce soit des témoins différents. On n'est pas encore vraiment dans l'organisation du procès tel qu'il va se dérouler. Enfin, s'il se tient.
Ok, on a une question ici à droite maintenant. Le micro. Vas-y.
Jean-Pierre Puertoja FM. La question est posée au porte-parole de la CPI. Les contacts sont en train d'être pris. Combien de temps ça pourrait prendre? J'aimerais aussi savoir, dans les deuxièmes mandats d'arrêt adressés contre M. Taganda, s'il a été repris les crimes commis dernièrement jusqu'en 2012. Et à vous, M. Carlos, à qui profite cette reddition, au gouvernement rwandais, à la RDC ou à l'ONU? Merci.
Par rapport au deuxième mandat, il s'agit, comme j'ai dit tout à l'heure, des charges consistant notamment aux violences sexuelles, des souffrances infligées aux victimes, etc. Des crimes à considérer comme des crimes contre l'humanité, en fait. Il n'a pas été pris, il n'a pas été... je dois souligner ici que M. Bosco Ntaganda est poursuivi pour des crimes commis, pour des faits commis entre 2002 et 2003 en Ituri. On n'est pas encore dans les crimes récemment commis. Les enquêtes du bureau du procureur se poursuivent encore concernant le Kivu, et ces enquêtes concernent ou touchent un peu tous les groupes armés et même des armées qui opèrent ou qui ont opéré dans cette partie du pays. Mais retenez que M. Bosco Ntaganda n'est poursuivi pour l'instant que pour des crimes, des faits commis entre 2002 et 2003 en Ituri.
La deuxième partie, à qui profite la reddition? Je crois que tout le monde doit se féliciter de cette reddition. Les victimes, la justice, c'est la fin de l'impunité dont il a bénéficié pendant beaucoup d'années. Hier, la MONUSCO, comme vous savez, a envoyé un communiqué à la presse. On se félicitait de ça et on demandait que son transfert se soit fait dans les plus brefs délais. Aussi, je crois que sa reddition peut, d'une certaine mesure, bénéficier le processus de paix ici en République démocratique du Congo. Et en même temps, c'est un signal qu'on envoie à tous les auteurs de violations de droits de l'homme que la justice, la plupart du temps, finit toujours par les prendre. Donc je crois que dans c'est une reddition dont on doit se féliciter, tout le monde. Une dernière question, parce que non, je crois qu'on va terminer maintenant, parce que je vois le signal de Radio Capi. Seulement pour vous dire merci beaucoup à tous les journalistes qui ont fait le déplacement, les auditeurs qui nous ont suivis en direct. Et je vous marque rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.